Alors il me revient de vous parler de l'espérance. Vous savez que de choisir de parler dans une petite retraite du Père Lamy de la foi, de l'espérance et de la charité, c'est pas simplement parce que c'est un thème chrétien, et puis que ça fait, c'est bien parce que c'est essentiel, mais c'est vraiment essentiel à la spiritualité du Père Lamy. Vous vous souvenez que dans l'apparition du 9 septembre 1909, il apparaît un chapelet en forme de cœur sur la poitrine de Marie, avec deux flammes, une flamme rouge et une flamme verte, qui le cœur signifiant la charité, et la flamme verte et la flamme rouge, respectivement, l'espérance et la foi. C'est vraiment ce chemin de Marie, ce résumé un peu de ces vertus théologales qui vont nous conduire sur le chemin du Seigneur et dans la vie avec le Seigneur. C'est vraiment la clé pour que nous puissions vivre de la vie divine. Alors, parler de l'espérance au lendemain de la fête de l'Ascension, c'est du pain béni. Pourquoi ? Parce que vous savez bien que dans le chapelet, l'Ascension, fruit du mystère, l'espérance. Mais pourquoi ? De quoi va-t-il s'agir ? Alors on dit, oui, le désir du ciel aussi, l'espérance, le désir du ciel, parce que c'est le ciel. Mais ça reste quelque chose de souvent un peu trop vague. Qu'est-ce que notre espérance? Et qu'est-ce que le Père Lamy va nous apprendre de l'espérance? Ce mystère de l'ascension, il est absolument fondamental. Pourquoi? Parce que très souvent, on le vit assez mal. Parce que c'est Jésus qui arrive au ciel, il a fini son cycle terrestre, et nous, on le vit un peu comme une séparation, quelque part. Il est parti, et puis nous, on reste là, puis tant pis. Hein, et puis ça a été une belle aventure, et puis la vie de Jésus, la manière humaine de Jésus de vivre, ce qu'il nous a apporté, ça s'est fini dans un drame, mais enfin, ça s'est quand même bien fini avec la résurrection, et puis on reste un petit peu fâché, parce qu'il apparaît un peu, on le reconnaît pas, on sait pas très bien. Et qu'est-ce que signifie l'ascension concrètement dans notre vie? Et c'est quelque chose de vraiment, je crois, assez fondamental. Une chose étrange dans l'Écriture, c'est que les textes qui vont nous relater l'ascension ne nous parlent pas du tout d'une séparation, une séparation qui serait triste. Au contraire, les apôtres sont dans la joie. Le mot revient 4 fois pour montrer. C'est pas une séparation qui va les quitter. Si vous voulez, cette ascension de Jésus, où le texte dit « il disparaît à leurs yeux », il disparaît à leurs yeux parce qu'il cesse d'être extérieur et qu'il devient vraiment intérieur. C'est ça le mystère de l'ascension. C'est ça la victoire de la résurrection établie. Jésus, élevé au ciel, assis à la droite du Père, où tout pouvoir lui a été donné. Et vous savez bien que la phrase très forte, la fin de l'évangile d'hier, « Et moi, je suis avec vous tous les jours. » Il est avec nous. Il est là. Nous sommes en sa présence. Sa grâce est au milieu de nous. Alors évidemment, très souvent, on dort. D'accord. Mais il est là. Et dans l'évangile de Matthieu, puisque c'est la finale de l'évangile de Matthieu, c'est tout à fait intéressant parce que ça avait commencé avec l'annonce de l'enfant qui allait être donné, dont le nom était Emmanuel, Dieu avec nous. Et ça finit, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin, jusqu'à l'achèvement. Et donc c'est cette fête de l'ascension, elle va nous donner ce désir du ciel, oui, mais ce désir de la vie éternelle, c'est la vie éternelle qui s'est établie parmi nous. Il lui a été donné tout pouvoir, c'est-à-dire comme on avait déjà ça avec les méditations des pères de l'Église sur Bethléem et sur l'étoile, avec les mages qui viennent, ce ne sont plus les... Et Saint Paul dans les Colossiens, les Éphésiens va le reprendre très fort, ce ne sont plus les astres, ce ne sont plus les éléments du monde qui vont nous guider. Mais ça va être cet amour personnel du Seigneur qui nous a rachetés. Ce n'est plus, nous ne sommes plus liés aux lois. Et alors, avec les astres, mais on pourrait le prendre aussi, c'est plus non plus la science, etc., qui va nous guider, les lois qui gouvernent le monde, dans toute leur complexité, hein, dont dans le temps on faisait des petites figurines, mais qui restent encore des dieux, parce que c'est les forces qui mènent le monde, et puis on est mangé par... Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas non plus les tentations, les jalousies, la colère, la violence, etc. Il y a cet amour que le Seigneur nous a donné. Il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à l'achèvement, la plénitude de cet amour qui nous est donné, dans lequel nous sommes appelés à demeurer. Voilà où nous mène. Qu'est-ce que cette vie éternelle ? Qu'est-ce que cette vie éternelle ? Alors, Benoît XVI avait écrit une encyclique sur la vie éternelle, sur l'espérance, et puis il pose cette question, qu'est-ce que la vie éternelle ? La vie éternelle, c'est pas simplement la vie de demain, plus tard, on verra bien. Hein ? C'est pas non plus l'idée d'une continuité. Et le pape, dans son encyclique, met toute l'ambiguïté d'une vie. On désire une vie qui n'a pas de fin, mais en même temps, on désire pas qu'elle dure toujours, parce que c'est monotone et ça. C'est pas une question de temps. C'est une question, l'expression qu'il prend, notre brave Benoît XVI, si je la retrouve pas trop loin. Il reprend cette expression de saint Augustin, c'est la plongée dans l'océan de la divinité, hein, et il dit ben, c'est le moment rempli de satisfaction dans lequel la totalité nous embrasse et nous embrassons la totalité. C'est-à-dire, c'est cette pleine communion avec de Dieu avec nous et de nous avec Dieu. Je vous rappelle la parole de saint Jean, très forte. Hein. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et ton envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est cette vie qui nous est donnée. Bien. Je rajouterai aussi, bon, puisque je suis parti là, je pensais en parler plus tard, mais c'est pas grave. C'est une chose importante, c'est le Notre Père. Le Notre Père, qu'est-ce qu'il va faire ? Comme dit saint Thomas d'Aquin, il organise l'ordre de nos désirs, de nos demandes à Dieu. Et c'est le Notre Père est une prière d'espérance foncière. Premièrement parce qu'elle nous fait connaître. Il nous fait connaître le seul vrai Dieu. Le seul Dieu véritable, non pas les faux dieux, ces lois qui gouvernent le monde, les forces, la fécondité, etc., hein, les éléments de la nature défiés, etc., et toutes ces lois de la matière. Non, c'est cette relation de Jésus avec son Père, qui le voit comme ce Créateur, mais ce Créateur plein de bonté, et qui s'engage pour sa création et ses créatures jusqu'à donner sa vie pour chacun, pour racheter chacun. Et vous savez, notre Père, c'est l'oraison dominicale, c'est-à-dire la prière du Seigneur, c'est Jésus qui nous donne sa prière, c'est-à-dire sa relation avec le Père. Et ensuite, tous nos désirs vont être ordonnés, hein, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom, c'est-à-dire ton être profond, cette paternité, non pas ce Dieu qui a ses petits copains sur qui il fait pleuvoir et puis sur qui il donne des coups de soleil pour les méchants ou le contraire, suivant qu'on est paysan ou touriste, hein, mais celui qui fait pleuvoir sur chacun, qui donne sa grâce à chacun, qui appelle chacun, qui invite chacun à chaque instant, hein, à se lever. Celui qui, on le voit très bien dans la vie de Jésus, hein, la manière Jésus, il n'est pas avec les bons, les méchants, comme faisaient les pharisiens, ceux qui respectent bien, ceux qui font, et puis ceux qui sont dans le droit chemin, et puis les autres. Non, il va à la rencontre de chacun pour susciter ce qu'il y a de vie, pour susciter le cœur profond. On retrouvera le Père Lamy ici. Hein. Mais que ton nom, que cet être de Père, qu'il soit sanctifié, qu'il soit reconnu, qu'il soit témoigné, hein, qu'il soit témoigné. Que ta volonté soit faite. Je raconte toujours, j'étais très surpris une fois, j'ai fait une retraite sur le Notre Père, des petits groupes de partage, et 5 petits groupes de partage. Sur les 5, 3 auront monté et disent « Cette prière, on ne peut pas la faire. » Ah, j'ai été étonné quand même. Ça m'a foutu un coup. Hein. « Cette prière, on ne peut pas la faire. » Alors je demande pourquoi. Parce que derrière, il y a sous-tendu « Si je fais la volonté de Dieu, ça veut dire que ça va m'embêter, ça ne va pas être la mienne. » Alors je retourne dans le catéchisme. Dans tout le monde. Attends, qu'est-ce que la volonté de Dieu ? Alors je regarde les paroles de Jésus. Qu'est-ce que la volonté de mon Père, c'est que pas un de ses petits ne se perde. C'est pas de nous faire des trucs embêtants qu'on n'a pas envie de faire. C'est quand même étonnant dans le monde où on est, où on a perdu le sens de Dieu, pour penser que fondamentalement, la volonté de Dieu, ça allait être contraire. Moi, je connais quelqu'un qui a refusé de suivre Jésus dans sa vie. Parce qu'elle dit, si je suis Jésus, eh ben, je vais être obligé d'aller soigner les petits pauvres en Afrique, et puis je n'ai pas du tout envie d'aller en Afrique. Et donc, après, non, mais c'est authentique, je vous le jure. C'était résumé d'une manière un peu cavalière, mais c'était à peu près ça quand même. Et c'est même tout à fait ça. Donc, non, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que cette aspiration de vie, mais de vie plénière, de vie réelle, eh bien, elle puisse être plantée dans notre cœur. C'est de cette bonté que Dieu, avec laquelle il nous voit, cette bonté de Père. Eh bien, non pas un Père tout-puissant qui projette ses désirs sur nous, c'est justement le contraire. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens reprochent à Dieu, qu'il soit beaucoup trop discret. Le Père de la parabole, moi j'ai jamais compris, je sais pas si vous avez déjà compris, mais quand le fils lui dit « Papa, pour moi, t'es mort », à boule le fric, la part d'héritage, ça veut dire « t'es mort hein », ben le Père lui donne. Ça. Bon. Mais pour dire Dieu discret, c'est pas un Dieu qui s'intromet dans notre... Mais qui est là, qui invite, qui attend. Qui attend notre désir de vie. Et donc cette expérience de l'espérance, cette vertu d'espérance, ça va être vraiment d'abord enraciné, bien sûr, dans la foi, mais ça va être... vous savez, c'est cette phrase, le frère la redisait ce matin, mais la foi, c'est la substance des choses que l'on espère, du bien que l'on espère. C'en est la preuve, c'en est la substance, c'en est la réalité. C'est quelque chose qui est donné. Pour qu'est-ce que la vie éternelle encore et qu'est-ce que l'espérance? Et dans toujours Benoît XVI, puisque je suis parti par là, c'est tout à fait intéressant de voir, il prend dans l'archéologie chrétienne, enfin dans deux images qui vont bien dire, qui sont sur les sarcophages, les premiers sarcophages où apparaissent des symboles chrétiens au IIIe siècle à Rome, et c'est l'image du philosophe. Alors, le philosophe, non pas comme notre philosophe aujourd'hui, où vous pensez philosophe, vous dites, attention, je prends des cachets d'aspirine, je me coince pour pas bouger, je lis et je me torture l'esprit, hein, c'est absolument pas ça. Le philosophe, c'est celui qui enseigne l'art de vivre et de mourir. Celui qui enseigne de l'art de la vraie vie, de l'art de l'essentiel. Qu'est-ce qui est important ? Et cette importance, avec cette expérience, avec cet amour de Jésus, avec ces rencontres de Jésus, avec cette puissance de la mort et de la résurrection de Jésus, eh bien, ça va être vraiment cette vie éternelle qui nous est donnée maintenant pour pouvoir s'épanouir. Il ne faut pas attendre le ciel pour vivre la vie éternelle. Parce que si on n'a pas commencé à vivre de la vie éternelle sur cette terre, eh bien, on risque bien de la rater de l'autre côté. Et voilà. Le Père Lamy. Le Père Lamy, j'ai demandé avant de venir à un frère à Ourscan, qu'est-ce que tu dirais sur le Père Lamy et l'espérance ? Il me regarde, il dit, bon, chez le Père Lamy, tout est espérance. Ça n'est que d'espérance en acte. Et c'est un peu vrai. Alors il a commencé à me dire, bah oui, regarde, et puis il voulait aller au séminaire, c'est pas, il doit attendre, il doit espérer, les choses sont remises à plus tard, mais les choses avancent. Bon, je vais prendre différentes choses, c'est Père Lamy, par rapport à sa vocation. C'est vrai que par rapport à sa vocation, c'est difficile un petit peu d'étudier le Père Lamy, parce que le Père Lamy raconte des... On a surtout le livre du comte Bivert. Il raconte les choses un petit peu de l'extérieur, hein, avec ses souvenirs et puis avec toute la richesse de ce qu'il a vécu. Mais finalement, c'est pas grand-chose. C'est les deux apparitions quand il était petit, l'agneau mystique et la Vierge Marie dans les peupliers. Mais il ne dit pas à ce moment-là si ça a déclenché sa vocation, pas un petit peu, mais pas vraiment. Il doit aller au séminaire, mais bon, bah, beaucoup de monde allait au séminaire, ça veut dire faire un peu étudier. Mais on voit au service militaire. Au service militaire va naître une vraie expérience chrétienne et une vraie espérance poussée. Il va être très marqué par un aumônier auxiliaire. C'est bien, il y avait un aumônier plus un aumônier auxiliaire quand il était à Metz. Ou à Charleville-Mézières, pardon. Et à travers des activités, notamment la Légion Saint-Maurice, etc., qu'il fait. Et on sent que là, il y a quelque chose de cette vie avec le Seigneur, de cette vie chrétienne, qui va pousser, qui va être dans ses espérances, qui le fait vivre, qui le fait, et qui va être confirmé par ce que Marie lui rappellera un peu plus tard en 1909, mais par des grâces de vie intérieure, notamment au jour où il dit le chapelet, une grande joie, et qui à dire le chapelet alors qu'il était en train de faire une garde, etc. Et on sent que là c'est en train de grandir. Et c'était tout à fait intéressant. Et je voulais rajouter à ce niveau-là. Non, bon, je vais le rajouter après. Ensuite, bon, il n'y a pas de place au séminaire pour lui. Puis il rentre chez les frères des Oblats de Saint-François de Sales. Alors là, chez les Saint-François de Sales, il y a d'abord une chose que je voudrais dire qui est étonnante, c'est que l'espérance s'est plantée au cœur. Vous savez pas que le père Brisson a redécouvert dans le jardin où il était, juste à côté, une vieille statue qu'il a appelée Notre-Dame d'Espérance. Il a fait une chapelle et il a été demandé le titre. Il a été demandé le titre de prier Notre-Dame de Sainte-Espérance à Rome. Il a été jusqu'à Rome, le père Brisson, pour demander cette reconnaissance, cette invocation. Et c'est tout à fait amusant. Et c'était vraiment le sanctuaire à côté de la Visitation, mais le sanctuaire, c'est la chapelle de Notre-Dame de Sainte-Espérance, est détruite aujourd'hui. Mais il y a une petite chapelle où la statue a été récupérée, qui est dans le jardin de la maison de l'aumônier, juste à côté de la Visitation, qui est vraiment ce sanctuaire de Notre-Dame d'Espérance. D'ailleurs, dans le diocèse de Troyes, c'est devenu une fête diocésaine au 25 octobre, et qui est bien marquée, qui sera aussi à l'initiative des frères du Ménil-Saint-Loup, etc., hein, qui est aussi rattaché à Notre-Dame de Sainte-Espérance. Mais c'est quelque chose qui est marqué. Et c'est très étonnant, parce que dans la vie du Père Lamy, c'est quelque chose de très semblable à cet événement du Père Brisson. C'est très semblable aussi à la grâce qu'avait demandé le Père Desgenettes, hein, à Notre-Dame des Victoires, à Paris, où, dépité que sa paroisse ne fonctionne pas, que les gens dans le quartier de la Bourse pensaient à toute autre chose qu'à la religion, il arrive à convertir personne, va demander le titre de Marie-Refuge des Pécheurs, et le cœur immaculé refuge des pécheurs, va demander aussi que ça devienne une fête, va l'invoquer, et du coup, sa paroisse démarre, et son activité apostolique démarre. Et je trouve que les deux parallèles sont intéressants. Le Père Lamy nous a donné non pas Sainte-Espérance, parce que c'était loin, et c'était Troyes, et c'était au début de sa vie religieuse, mais du diocèse de Paris, mais c'est la même dynamique, cette dynamique de l'espérance. C'est de ne pas se décourager, de persévérer, parce que la vie du cœur, la vie divine est plus forte. Hein, et il faut aller la chercher, et on va invoquer Marie pour demander, parce que c'est elle qui va en être la clé. Bien. Alors, l'activité d'espérance à l'œuvre de Troyes, dans le patronage, elle est tout à fait intéressante. Parce que le Père Lamy, justement, va faire une œuvre d'éducation. pour faire des hommes qui se tiennent et pour essayer de les arracher un peu à cette vie dans la ville de Troyes où beaucoup de jeunes étaient abandonnés eux-mêmes dans ce début de l'ère de l'industrialisation. Et il va se donner sans compter. Il a un ressort immense. Il travaille avec un ressort, on ne sait pas d'où ça vient. D'ailleurs lui-même le dit, pour la retraite annuelle, à faire pour les enfants, je ne savais pas. Et heureusement, j'ai demandé à la Vierge Marie et c'est elle qui m'a aidé. Enfin, il a tout à fait le sens de ce secours. Hein, parce que quelqu'un qui est transporté par l'espérance, le fond d'espérance, c'est le goût du bonheur, la vraie vie, hein, le goût du bonheur, et ce bonheur communiqué, mais comme dit le catéchisme, c'est ce bonheur de la vie éternelle, et qui se fait pas non pas à partir de nos forces, mais à partir du secours de la grâce du Saint-Esprit. Dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est comme ça qu'est définie au départ l'espérance. Et on va voir cette dynamique d'espérance où il ne s'arrête pas, il ne s'avoue pas vaincu. Quand il y a des difficultés avec les enfants, etc., il les reprend, il va au cœur, il les confesse, il y en a énormément, il a pas beaucoup de temps, enfin il a toute une stratégie, j'ai lu ça ce matin, c'était tout à fait intéressant de la manière dont il s'y prend, il fait à la tribune, il 2 minutes par enfant, l'éveil de grande fête, il confessait toute la nuit sans arrêt, et je sais pas comment il faisait, mais enfin il que donnait la communion tous les quarts d'heure. Enfin, il devait faire des tranches comme ça et puis les faire communier après, en dehors de la messe, c'est plus ça trop, mais bon. Et il arrive à 7h du matin pour célébrer la messe, et puis le dimanche, il en avait 140 ou 200, etc. Et puis les dimanches ordinaires, il y avait entre 20 et 40 jeunes qui venaient avant. Du coup, ils commençaient toujours entre la messe en retard, et les gens rouspétaient, ils commençaient les cantiques avant et tout. Bon. Mais ça, c'est la petite histoire, mais c'est cette dynamique où ils ne se laissent pas enfermer. Il y a des jeunes qui ont des difficultés, il va intercéder, il devient le nouvel avocat, M. Verdier, le juge qu'il voit tout souvent arriver, il dit « Ah ben voilà encore un avocat qui arrive hein, !» Et il va intercéder pour tel jeune, pour telle maman qui doit aller en prison parce que ça va pas, et parce que ça fait la 20e fois qu'elle a été prise en flagrant délit de vol. Et il va dire, mais enfin, il y a la communion de l'enfant demain, etc. Bon, enfin, c'est toujours cet accent pour la miséricorde, mais il va chercher cette force et non pas fermer dans les cadres, mais comme Jésus dans son apostolat, il va chercher les pauvres, il va chercher les gens perdus. La même chose d'ailleurs dans son apostolat à Saint-Ouen, hein, qui lui demande une force incroyable, ou comme Jésus, il est au milieu des pécheurs, etc. Alors le Père l'a mis à Saint. Bon, vous allez m'apprendre à jurer, mais moi je vais vous apprendre vos prières. Vous allez m'apprendre à jurer si je peux, et vous allez apprendre des prières. Mais c'est cette vie profonde. Sur l'espérance du Père l'a mis, sur la dynamique, donc je vous disais sur l'aspect de la vie intérieure, on a plus de mal à le voir, mais par bonheur, on a le petit récit de la grâce de 1909 et un petit récit manuscrit qui nous donne un peu des détails comment il l'a vécu, qui sont assez intéressants. L'espérance, je vous disais, comme dit le catéchisme, c'est l'aspiration au bonheur qui assume les espoirs des activités humaines. Et donc cet espoir aussi, on pourrait même réduire, c'est un peu rationaliste, mais on pourrait réduire, bah oui, mais il fait comme faisaient mes grands-parents instituteurs, qui c'était une vocation et aussi de quelque part une espérance de former des hommes qui se tiennent dans la société, qui puissent affronter, etc. Mais qui vient assumer les activités humaines. Ça, c'est la même chose que je vous disais pour la volonté de Dieu tout à l'heure. La volonté de Dieu, notre bonheur, il n'est pas en dehors, le bonheur que Dieu veut pour nous, il n'est pas en dehors du bonheur légitime auquel nous pouvons aspirer, de la vocation, de l'appel qu'il a mis dans notre cœur. Mais tout en les ordonnant au royaume des cieux. C'est ça où souvent on oublie, hein, on a nos aspects légitimes, mais qu'on n'ordonne pas forcément au royaume des cieux, hein, qu'à ce bonheur plénier de cette vocation profonde de l'essentiel. Parce que souvent, comme disait chez nous le père André dans le temps, hein, la grande difficulté pour nous tous et pour beaucoup de monde dans le monde, c'est dans les discernements qu'on doit faire, c'est qu'on prend l'essentiel pour l'accessoire et on prend accessoire ce qui est essentiel. Et regardez bien un peu dans le discernement, à travers les passions, les colères, les jalousies, etc., que nous vivons, bien souvent, c'est ce qui nous arrive. Hein. Mais l'espérance qui nous amène à... Vous savez, quand on essaye de vivre de l'espérance, on vit nos passions, on vit nos combats, etc. Mais si on a un petit peu cette expérience de vie intérieure, de prière intérieure, à un moment on s'arrête. Et puis on dit, bon, mais qu'est-ce que tu veux ? Vous voyez, comme le Père Lamy dit au postulant du serviteur Jésus-Marie, Bernard, à qui t'es venu ? Pourquoi es-tu venu ? Qu'est-ce que je cherche ? Bien sûr qu'il y a tel désir qui pousse en moi, bien sûr qu'il y a telle colère qui pousse en moi, bien sûr qu'il y a telle incompréhension, telle ténèbre qui est à l'intérieur de moi. Mais au fond, se redimensionner par rapport à cette rencontre avec Jésus, cette rencontre qu'il nous a invités à faire, par rapport à cet amour, cette manière dont il nous a aimés, et la manière dont cela nous a transformés. Parce que justement, la difficulté, là c'est Benoît XVI aussi qui revient, la difficulté c'est que souvent pour nous, l'espérance, vous savez, l'espérance du ciel, etc., c'est des vagues idées d'un futur meilleur, etc. Mais non, l'espérance c'est pas simplement des choses qu'on a apprises sur Dieu, c'est cette grâce qui nous transforme, l'expérience de la grâce qui nous transforme. Et vous savez bien, il y a plusieurs étapes de conversion. Il y a la première conversion, hein, la conversion, j'allais dire, d'une vie désordonnée à une vie moralement saine, si vous voulez. Mais il y a aussi ces autres étapes de conversion, ces moments de purification. Père Hubert-Marie faisait allusion ce matin, justement, enfin, la grande promesse, hein, la grande espérance de la foi, mais aussi c'est dans le catéchisme, c'est tout à fait amusant parce qu'il a cité au niveau de la foi, c'est cité par saint Paul au niveau de la foi, mais dans le catéchisme c'est cité au niveau de l'espérance, l'espérance dans les promesses, hein, qu'a Abraham, mais qui est purifiée, qui est achevée par cette deuxième, cette troisième conversion qui est le sacrifice d'Isaac qui lui est demandé. Et les épreuves dans notre vie, c'est intéressant, on peut apprendre à les voir de différentes manières, et ça le Père Lamy aussi va nous apprendre de ce temps-là, où on peut les prendre simplement comme des obstacles, enfin comment vit-on les frustrations, comment vit-on les difficultés, j'ai telle difficulté de relation dans ma communauté, est-ce que c'est un jeûneur qui doit disparaître, c'est peut-être le sentiment que j'ai. Hein, que s'il n'était pas là, on se porterait mieux, ou est-ce que c'est le frère qui m'a été donné pour développer un aspect que tout seul je n'aurais pas développé, une capacité de charité. Alors, très souvent, ça va nous demander sang et eau. Hein, je veux dire, vous faites telle tuile dans la vie, telle difficulté professionnelle, familiale, etc. Mais, vous voyez, avec l'espérance de regarder, ça va nous apprendre à regarder, à vouloir autrement, à rechercher cet art de l'essentiel, comme disait le philosophe des sarcophages de Benoît XVI, eh bien, ça va nous rapprendre. Et alors le Père Lamy, on va le voir dans cette grâce de 1909, on va voir beaucoup plus son cœur. Hein, on va beaucoup voir quelque part sa psychologie et son combat spirituel. Hein. Et vous savez bien que la première, Marie qui descend, avec Assise, et puis avec le démon qui apparaît, et tout de suite, le démon qui dit « c'est pas possible ». Il n'est pas possible pour lui de tenir dans la grâce de Dieu, en présence de Marie. Il fait intervenir le démon qui dit à Marie, voulez-vous que je le fasse disparaître, etc. Et Marie qui recommande. Qui assume, qui se montre le véritable paraclet. Je m'en occupe, c'est moi. Jusqu'à devant Jésus, l'année suivante, hein, où le démon rouspète à Jésus à propos du Père Lamy, parce qu'il n'a rien fait, il n'a pas fait fructifier ça, la grâce, etc. Et il dit, oui, mais c'est le protégé de ma mère. Hein? Alors, évidemment. Mais vous voyez, et ici, cette expérience de Jésus ressuscité, de l'éternité, pour Père Lamy, c'est vrai, ça va passer toujours par Marie, hein? qui va se montrer comme le paraclet, qui va être ce point stable pour et ce point stable de sa vie, parce que même si il a du mal à avancer, s'il a du mal finalement à croire, à s'enraciner profondément dans cette vie éternelle qui est donnée, c'est Marie qui lui donne accès. Et elle le montre par ce que j'appelle cette guérison intérieure, qu'elle montre parce qu'elle était présente dans toute sa vie. Et c'est très important pour nous, fêter la résurrection, la fêter la résurrection de Jésus, fêter l'ascension, qui n'est qu'un seul et même mystère d'ailleurs, mais c'est vraiment quelque chose de très important, qui n'est pas assez développé souvent dans les dimensions spirituelles que nous vivons, mais qui est tout à fait essentiel, parce que c'est cette expérience dans laquelle nous sommes rentrés. Et ce n'est pas une expérience uniquement lumineuse, ce n'est pas ça. L'autre jour, j'avais en accompagnement un monsieur qui avance d'une manière incroyable, qui depuis un an et demi maintenant se sent appelé à une vraie prière intérieure, une vraie prière contemplative intérieure, enfin, dans le silence, etc., et qui en même temps trouve ça très dur, hein, qui est très difficile, parce que c'est pas du tout. Il commence à découvrir cette présence de Jésus, qui n'est pas une présence sensible, qui n'est pas une présence affective, qui est pas une, qui vient combler un peu les manques, parce que c'est pas ça l'Évangile non plus. Hein, c'est pas le Dieu qui vient combler tous nos manques, mais qui en même temps est cette présence, parce qu'il vit avec Jésus, parce qu'il contemple cet amour de Jésus qui est là, et finalement dans la foi, je sais qu'il est là. Je ne le ressens pas. Si je le cherche à travers mon affectivité, si je le cherche à travers le sensible, le désir d'être comblé, je vais m'épuiser, je vais trouver au contraire encore plus vide, et je vais rencontrer encore plus mon vide. Et c'était très beau, parce que c'était de l'entendre, de dire, ben, de montrer cette difficulté, il y a un chemin à faire, mais en même temps, il y a quelque chose qui s'établit. Mais il me dit, mais cet appel à la vie contemplative, il est encore plus fort. Ce n'est pas dans des grâces senties que je l'ai, mais je pars très vite, j'ai des soucis, etc. J'ai du mal à rester en silence, j'ai du mal à... Mais c'est un appel impérieux, je ne vais pas l'abandonner. C'est tout à fait intéressant, cette phrase. Et je faisais appel aussi de... Ça, c'est quelque chose de très important. Et pour le Père Lamy, eh ben, aussi, vous voyez, le Père Lamy, donc, qui a du mal, c'est tous ces problèmes personnels, à exister, Marie le fait exister. Et elle va le faire exister, non pas simplement tout seul, comme ça, pour son bien, etc., mais devant les problèmes du monde. Était étonnant, à sa place, à sa petite place de curé de la Courneuve, petit village qui grandit, mais enfin, bon, etc. C'est vrai, il est passionné, il est guidé par Marie, qui arrange, donc le secours de la grâce, il le raconte de manière imagée, donc à chaque moment, il entreprend des choses, il sait pas les faire, il sait pas les voir, et puis finalement, ça s'arrange, et puis il y voit le secours de la grâce, Marie qui l'aide pour ouvrir une âme, pour trouver la parole, pour etc. Il vit constamment dans de cette manière. Mais il y a cette exigence profonde qui est l'exigence des béatitudes, hein, qui vont être le premier ressort et la première loi de l'espérance. Bienheureux les pauvres. Le royaume des cieux est à eux. Et si on veut un Dieu qui comble nos désirs, un Dieu un peu rêve d'un autre monde où on se réfugie un petit peu, c'est toujours possible, hein, eh bien, on n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, ça ne marche pas. Hein, et on a besoin aussi d'être purifié là-dessus. Mais si on revient à « Bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux », c'est ce retour à l'essentiel. Hein, c'est ce retour. C'est pas un Dieu qui va combler nos manques, mais dans cette pauvreté, tu as tout déjà ce qu'il faut. C'est pas en étant comblé, c'est pas en étant dans la richesse, mais cette pauvreté, elle va te mettre en marche. Elle va te mettre en marche pour conquérir la vie. Celui qui est pauvre, c'est celui qui manque de l'essentiel pour vivre, de ce qui est fondamental pour vivre. Hein? Et ben, il va se mettre en route. L'origine du mot « acheré » en hébreu, dont Chouraki a joué en traduisant « en marche », hein, ou en italien on dirait « ingamba ».« Ingamba », ça veut dire « il est super, il est dans l'action », etc. Hein, et bien, c'est exactement ça, ce heureux, celui qui... Parce que Voilà, c'est ça le point de départ. Il va se mettre en marche. Hein. Et donc, le royaume des cieux est à eux. Et le, vous vous souvenez, c'est cette phrase du Père Lamy aussi, qui dit je ne suis heureux que quand il me manque quelque chose. Hein. C'est vraiment cet homme en marche qui a ce sens que c'est pas grave. Notre pauvreté n'est pas grave. C'est très Saint François de Sales. Hein. J'aime beaucoup cette phrase de Saint François de Sales. Il n'y a pas un lieu sur la terre où l'homme est si pécheur que ce ne peut pas ne pas être un point de départ pour retourner vers le Seigneur. Quand on se regarde, ou comme on lit tout à l'heure, là ici, perdu dans le gouffre de notre tristesse, dans le déchaînement des flots, etc., hein, je peux m'arrêter et dire, mais c'est un point de départ pour aller vers le Seigneur. Lève-toi. Et c'est cette espérance ici que Jésus vient nous donner. Et donc on voit le Père Lamy, alors je vous disais, non seulement pour lui, sa vie personnelle, sa psychologie, mais face aussi aux grandes difficultés, aux grands problèmes du monde, hein, face aux grands problèmes du monde, face à la guerre qui s'annonce. Bon, Marie lui en parle, les journaux en parlaient aussi déjà depuis un certain temps, hein, et on sent ça monter, mais Marie lui en parle, elle ose parler des choses difficiles avec lui, elle donne des détails, claque les journaux, vous ne savez pas, mais elle l'invite à faire quelque chose. Elle l'invite à faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est le pèlerinage de Notre-Dame-des-Bois. Tout à fait étonnant, hein, avec ces phrases, on a des fois des mal à comprendre. Je serai la protectrice de ces contrées. Ça veut dire un petit lieu qui se veut un havre de paix pour pouvoir faire l'expérience de Dieu. Un petit lieu qui est pas le remède aux grands maux du monde, mais qui va être un signe. Tu peux apporter, toi, ta petite pierre. Et ça, c'est pour la guerre, mais d'ailleurs, il va commencer juste l'année avant que la guerre explose, en août, là c'est en avril, hein, il apporte la statue. Et non seulement pour ça, parce que je pense que le Père Lamy est justement très, très intéressant dans ce monde révolutionné du XXe siècle, avec l'industrialisation, enfin toutes les idées, tout change, si vous voulez, dans la philosophie, dans l'économie, dans la vision de l'homme, on s'enfonce dans ce qui avait commencé bien avant, comme dit aussi comme dit le pape quand il essaye d'expliquer aussi l'espérance, comment notre monde a du mal à comprendre, puisque avec les progrès de la science, de la raison, de la liberté, etc., eh bien, on veut substituer cette rédemption, ce rachat qui se faisait par, justement, dans cette dimension religieuse, enfin, dans le christianisme, eh bien, c'est le rachat par le progrès, parce qu'on va faire un homme nouveau, un monde nouveau, on va retrouver le paradis perdu, on va le faire, et puis, quitte aujourd'hui, on parle même, on va trouver la vie éternelle, anti-vieillissement, les gènes anti-vieillissement, etc. Bon, avec ce rêve fou, mais du coup, on oublie, et le Père Lamy revient, et cet endroit pour apprendre la pureté, pour apprendre le silence, pour apprendre le réconfort de l'âme, de faire cette expérience simple dans la nature. J'y avais pas pensé, mais c'est assez écologique, là, chez le Père Lamy, dans Notre-Dame-des-Bois, aussi, mais pour retrouver ce cœur, pour retrouver cette confiance de Marie, pour retrouver Marie qui vient illuminer nos vies. C'est très intéressant, cette apparition qu'il y a quand il monte la statue de Notre-Dame-des-Bois. C'est très intéressant, et c'est vraiment quelque chose marqué au coin de l'espérance. Parce que ce coin de l'espérance, c'est, vous vous souvenez, il monte, donc, et puis il fait une sorte de petite procession, il aime bien, et puis comme quand il était enfant, apparaît, là, pas Marie, mais apparaît des gens, enfin ici Marie au bout, mais des gens et les saints. Hein, les saints. Et les saints qui sont les gens de son village. Qui sont les gens de son village. Et il voit même le cantonnier, qui était un poivreau fini et qui passait plus de temps couché dans le fossé qu'en train d'arranger le fossé. Hein, de voir cette espérance. Mais ça va être aussi ce regard. Parce que nous sommes appelés à vivre d'espérance, mais nous sommes appelés à être porteurs d'espérance. Hein. et à voir comme Dieu nous voit. Quand Dieu nous regarde, il ne dit pas, oh, celui-là est foutu. Pas la peine. Comme on risque beaucoup, vous savez, plus on vieillit, plus on connaît ses défauts, plus on connaît ses incapacités de se convertir sur certains points, etc. C'est pas la peine. Hein? Non, mais qui sait voir le cœur, hein? Et ça, chez le Père Lamy, il va aller chercher dans chacun ce qui est encore de vie, ce qui a de désir de vie, de désir de bonheur. Hein? Et comme pour en délier, alors lui dans son rôle de prêtre, mais pour en délier les chaînes. Et ça, c'est quelque chose qui lui tient très à cœur et qui est très important dans cette dynamique de l'espérance, parce que du coup, il voit que c'est comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'il vit sa vie sacerdotale, si vous voulez, hein, d'aller chercher ce qui est perdu. Je suis envoyé aux enfants perdus de la maison d'Israël, aux brebis perdues. Hein, et non pas suivant du socialement correct ou du ecclésialement correct, comme vous voulez, c'est pas sans problème. Et le Père Lamy gardera cette dimension aussi très forte de l'espérance. Vous savez, moi j'aime bien cette histoire de la mère Ripaton, là. Je sais plus, c'était quoi son vrai nom déjà, hein? C'est une brave dame de sa paroisse à La Courneuve qui est... Hein?
Avec les bougeoirs.
Oui, avec les bougeoirs. Alors il s'en va à Paris pour acheter, il s'insulpice pour acheter des bougeoirs dans une arrière-boutique, etc. Puis en fait c'était un truc fumeux parce que c'était des trucs un peu de contrebande. Enfin bon, il était déjà mal à l'aise et tout parce que c'est la dame qui avait tout manigancé, etc. Et puis il revient dans Paris et puis elle crie fort. Là, elle marche avec lui. Là, avec une femme qui crie fort, qui l'interpelle, etc. Là, il sait plus où se mettre et puis elle veut s'arrêter à la terrasse d'un café, il n'ose pas, mais il meurt de soif, etc. Enfin, c'est la honte pour lui, il ne sait plus où se mettre, etc. Et puis, bon, il aura accompagné cette femme, mais quand il regarde, et puis après, il lui dit, mais regarde le don qu'elle a fait, hein, le don à tel moment, etc. Qui sait voir ce qu'il y a de vie, qui ne s'arrête pas aux apparences, mais qui sait... Et du coup, il voit, ben oui, Marie l'a accueillie dans le ciel, etc. Même si, dans sa vie, elle n'était pas vraiment franchement dans les clous, mais il y a cette miséricorde, vous voyez, parce qu'il sait aller le susciter. Alors après, pour que ça nous transforme, bien sûr, ça c'est très important, pour que, hein, que cette espérance, que ce regard d'espérance vienne nous transformer et qu'on puisse y répondre. Il gardera aussi cette espérance dans cette... Le Père Lamy, c'est un spécialiste de célébrer la messe pour les morts aussi, enfin vers la fin de sa vie, très fort, de garder cette espérance, parce que chacun est appelé à la vie éternelle, et c'est pour le salut, hein, c'est le salut qui compte, hein, c'est pas justement simplement est-ce que aujourd'hui il va bien, etc. Bon. L'origine des béatitudes. Un autre aspect de l'espérance. Alors, vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots pour dire l'espérance, qui sont c'est la constance, c'est la persévérance, c'est espérer, c'est attendre. Hein, c'est qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, j'en avais plusieurs là. La constance, l'assurance, c'est vraiment d'apprendre cette assurance. Et dans le Nouveau Testament, c'est vraiment la marque des chrétiens. À Pentecôte, qu'est-ce qui va se passer? Ils étaient dans la peur. L'expérience de l'Esprit-Saint va être, ils vont parler avec assurance. Et vous lisez les actes des apôtres qu'on lit en ce moment, vous lisez les lettres de saint Paul, ce qui caractérise, c'est pas que le monde va tout bien, que c'est un monde tout bien, au contraire, il y a plutôt les persécutions, etc. Hein, mais ils sont dans cette assurance. Si bien que ça va entraîner, justement, hein, jusque les martyrs, qui vont discerner ce bien fondamental, plus que la substance des biens de notre vie. Nous, on a l'impression, d'habitude, c'est notre sécurité, c'est la sécurité matérielle, c'est la sécurité des habitudes, c'est la sécurité affective, etc. Et pour ceux qui sont persécutés, et puis pour tout chrétien ensuite, hein, parce qu'on est appelés tous à être des témoins, eh bien, ça va être apprendre de... Non, mais cette espérance fondamentale qui est la vie éternelle, cette vraie vie que met le Seigneur. Cette vie parce que j'apprends que je suis aimé. Et j'apprends que je suis soutenu par le Seigneur. J'apprends qu'il m'attend. Vous savez que dans l'encyclique sur l'espérance, le pape prend comme première image, au numéro 3, cette expérience de cette jeune religieuse soudanaise, hein, qui était esclave, qui a été vendue à plusieurs patrons, qui arrivait à un patron en Italie, et puis qui travaillait au Soudan, puis qui revient, et puis qui est libre, et qui découvre le Seigneur. Elle dit, j'ai un patron, mais qui m'aime, qui m'attend, qui me soutient, qui me connaît. Et du coup, c'est ça qui est important. Et du coup, c'est pas les biens à droite à gauche qu'on peut découvrir, mais il y a ce bien du cœur, un cœur qui s'est dans la joie. Bhagita, oui, une sainte Bhagita. Vous voyez, ça rejoint cette espérance, ça rejoint cette expérience du royaume dans cette rencontre avec Jésus. Jésus dit, ben, votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne pourra vous la ravir. Personne ne pourra la ravir. Et c'est vraiment cette expérience chrétienne, hein, de cette joie fondamentale. Vous vous souvenez de l'expérience de Saint François d'Assise, hein, Saint François d'Assise, l'expérience de la joie parfaite. C'est quoi la joie parfaite? Ah, la joie parfaite, c'est quand j'ai fraîché, tout le monde s'est converti, puis ils ont tous demandé le baptême, etc. Et je voyais à côté de la ville les démons tomber. C'est ça la joie parfaite, Léon? L'idéal du prédicateur, quand même. Hein. Bon, il se donne, c'est quand même pour que ça marche. Bon, ben, non, c'est pas ça la joie parfaite. Ou alors c'est quand les frères, eh ben, ils vont être admis à l'université de Paris, ils vont enseigner, et puis ils vont prendre leur place dans l'église, et puis l'église va fonctionner avec eux, etc. Bon, c'est pas ça la joie parfaite. Alors ils continuent leur chemin, puis il fait froid, il y a du vent, de la pluie, de la glace, etc. Il y a même ce sabure, il y a de la glace qui tombe, qui blesse les jambes de choses, et puis ils arrivent dans un couvent, et puis bon, les franciscains, vous savez, ils étaient toujours au départ, ils étaient toujours accoutrés d'une manière un peu spéciale, donc ils arrivent de nuit dans un couvent, on les reconnaît pas, on les fout à la porte, etc. Et puis il dit, bah, tu vois, frère Léon, la joie parfaite, c'est ça, si dans ces tribulations, ton cœur s'est resté dans la paix. Si ton cœur s'est resté dans la paix. Pourquoi? Parce que c'est essentiel, c'est d'être avec le Seigneur. Aujourd'hui, en fait, Sainte Jeanne d'Arc, le Père nous a rappelé, hein, là où Sainte Jeanne d'Arc éclate le plus encore en sainteté, c'est dans sa douloureuse passion, où elle ne se laisse pas démonter par les arguments qui veulent les pièges qui lui sont présentés, ou jusque dans l'Eucharistie, jusque dans ses moments d'agonie, mais elle saura se brancher, être en communion avec Jésus. Non pas qu'elle n'est pas... Ce n'est pas une angoisse, non. Mais dans cette angoisse, elle est comme Jésus. Elle peut dire, mais Père, Jésus, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais voilà. Est-ce que je vais simplement pour moi essayer d'être... de me combler dans ma réussite? Ou est-ce que c'est cette réussite fondamentale qui vient de cette communion? De cette communion avec le Seigneur, de cette construction du royaume qu'on essaie de faire, qui peut demander des moments mais héroïques aussi. Et voyez, c'est ça aussi, tenir cette constance, hein. C'est cette assurance, cette constance. Et on a été éduqué dans l'Ancien Testament aussi avec cette attente d'Israël, hein, qui est, regardez les psaumes, deux grands psaumes fondamentaux qui se répondent, qui parlent de l'espérance, c'est le De profondis, hein, si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Même devant cette interpellation, devant le regard de Dieu, ici comme on a dans le chant de Saint Bernard, si la gravité de tes fautes te tourmente, etc., si le Seigneur espère dans le Seigneur. Parce qu'il est Dieu, il n'est pas homme, parce qu'il veut la vie du pécheur. Hein, il vit, non pas du péché, mais du pécheur. Hein, et il la veut, il désire que tu sois vivant, que tu sois debout. Il t'appelle. Hein, et espère Israël. Et puis, vous avez le pendant, qui est le psaume de l'esprit d'enfance, hein, avec le gars qui a essayé de conquérir la ville, je n'ai pas pris un chemin où mon cœur était enflé, un chemin de grandeur, un chemin de merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse, près du Seigneur, comme un enfant contre sa mère. Et on sent qu'il y a une grande lutte, comme dans le psaume avant, et puis après, et ça termine par le refrain qui était déjà dans le psaume précédent, espère Israël dans le Seigneur. Savoir attendre l'heure du Seigneur. Savoir attendre, il y a des moments qui ne sont pas les moments porteurs, mais tenir. Dans la vie du Père Lamy, vous avez ça aussi, d'une manière, pour ses études, pour être prêtre. Il est rentré pour être prêtre. Et puis ça venait pas. Et puis, il était quand même un peu mal pris, parce que s'il n'a pas été au séminaire, il a fait 2 ans d'école à quelques heures dans la petite école du Pailly où il y avait 3 religieuses bien dévouées, mais il n'a pas appris grand chose. Elle n'était pas très douée, c'était pas un bon écolier. Et puis, tous ses compagnons oblats, c'était des professeurs, finalement, des professeurs d'école, donc il a eu du mal. Alors, heureusement, quelque part, qu'on lui a donné le patronage, parce que ça lui a donné de faire, mais pour ses études, c'était un peu compliqué, parce qu'il raconte qu'il avait que le soir, quand il était complètement crevé, qu'il pouvait 1 ou 2 heures essayer d'étudier, etc. Mais il a été secondé dans ses études. Vous savez, à l'époque, on était préparé juste par un prêtre qui vous coachait un peu dans les études, les choses, un peu comme le père André l'a été à Ourscan d'ailleurs aussi. Et c'était pas vraiment le séminaire tout entier avec les études comme elles sont. Et puis il y est arrivé au bout de... Il en rajoute, il dit 17 ans, mais c'est pas vrai, il y en a moins, puisqu'il n'a fait que 12 ans et demi à 3. Mais ça lui a paru très long, et avec des moments très difficiles. Très difficile. Et se tenir, vous voyez, il y a ce moment quand il parle de Saint-Joseph, Saint-Joseph là qui se monte paraclet, qui se monte ferme, qui vient lui dire, non mais, vous serez prêtre. Comme pour arrêter. Vous voyez, pour tenir dans l'espérance, des fois, il faut arrêter nos cinémas, toujours, il faut arrêter nos cinémas intérieurs. Il faut arrêter les raisons, d'où ça vient. D'où vient ce qui parle en toi? Est-ce que tu laisses le Seigneur parler en toi? Et ici, c'est assez extraordinaire, Saint-Joseph qui lui dit, mais vous serez prêtre. Et ça vient faire taire en lui, ça le remet dans un silence, ça le remet dans l'attitude profonde de confiance. Donc avec cette constance, et qui l'aide à marcher justement dans cette conscience, dans cette persévérance, pour avancer plus loin. J'ai couru un peu, mais je vous ai dit beaucoup de choses déjà. Alors bon, pour dire, je disais tout à l'heure, pour être complet, dans la grâce de 1909, cette espérance, les problèmes du monde, les problèmes de l'Église, c'est la même chose pour la congrégation. Elle lui parle de l'état de l'Église, et puis il y a cette proposition de plutôt que rester sur le côté, critiquer, etc., être dans le malaise du temps, eh bien, tu peux faire quelque chose, une petite compagnie. Vous voyez, alors que ça n'a, là pour le coup, c'est vraiment la folie de l'espérance, parce que ça n'a aucun rapport avec ce qu'il se sent capable de faire et ce qu'il peut faire, et que la situation lui permette de faire. Mais c'est une parole qu'il garde. Très important pour nous de garder ces paroles de Dieu. Il y a des moments dans notre vie, des paroles qui nous touchent, des paroles qui nous sont adressées, des paroles qui nous font vivre, des paroles qui nous font. Qui nous font vivre, qui nous libèrent, etc. Et c'est très important de les garder, parce que c'est des flambeaux sur notre vie, sur lesquels on a à revenir. On ne sait pas comment ça se fera. C'est comme Marie pour Jésus, « Je suis la résurrection et la vie », il a dit à Marthe, il a parlé de sa résurrection, et puis il meurt, et puis voilà. Mais elle est là. elle est là. C'est, vous voyez, marcher dans l'espérance, et puis après, on pourrait retourner à Saint Jean de la Croix, qui parle justement de la purification des vertus théologales. Il parle de la purification dans un premier ouvrage, La Montée du Carmel, il parle de toutes les purifications un peu de notre vie sensible, morale, etc. Et dans une deuxième partie, il reprend toute cette purification de cette vie intérieure. Et je crois que c'est très important pour marcher dans l'espérance, il faut avoir ce sens. Il y a ces paroles fondamentales, et puis il y a notre cœur, parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est ça aussi notre grande espérance. Hein. Qu'est-ce que c'est que notre vie? Qu'est-ce que c'est que la Bible? On ne sait pas lire la Bible, mais la Bible, c'est très intéressant. C'est le passage d'un monde du chaos à un monde ordonné suivant le cœur de Dieu. Avec toutes les impasses, les erreurs, les difficultés qui font notre monde, de ce temps-là, mais aussi d'une autre. Il suffit d'ouvrir le journal, il suffit de regarder nos vies, il suffit de regarder les difficultés. Et c'est toujours ça qui se rejoue. Hein. Et cette espérance, c'est que « mais tu es dans la main de Dieu ». Et nul ne t'en arrachera, qu'on a relu le quatrième dimanche du temps pascal. Nous sommes dans la main de Dieu et nul ne m'en arrachera. À moi de répondre à cet appel et pas de faire n'importe quoi. Voyez, et toute cette ascèse de l'imagination, de tout ce qui parle en moi, de tout, vous voyez, qui n'est pas ordonné, mais de savoir ordonner dans le royaume de Dieu. Et je vous assure, c'est assez d'ordonner, c'est pas un carcan qui va nous être mis au compte de l'extérieur, c'est au contraire, c'est ce jaillissement de la vie, mais qui va être canalisé pour qu'il y ait une belle source, pour qu'il y ait une belle fontaine, etc., qui puisse être donnée.